Je n'aurais jamais cru que... Par Rodolphe Delacroix. Rencontre normande, destin incroyable, un podcast by Tendance Ouest.
Bienvenue dans Je n'aurais jamais cru que, ce nouveau podcast by Tendance Ouest. Je m'appelle Rodolphe Delacroix et je vous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes au destin particulier. Ces Normands qui ont une histoire à raconter. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Dinan, notre premier invité à traverser la frontière de la Normandie pour aller s'installer dans cette jolie ville de Bretagne. Cet invité se nomme Benjamin Jeanne, plus connu sous le nom de Fat Babs. Si le temps file à une vitesse folle, le podcast est quant à lui un moyen de prendre le temps d'écouter, de découvrir, de s'intéresser à l'autre. Ouvrez grand les oreilles, ce podcast « Je n'aurais jamais cru que », épisode 1, c'est parti. Bonjour Fat Babs.
Salut Rodolphe.
Merci de nous accueillir chez toi, ici, à Dinan.
Mais merci à toi, merci à vous de venir, ça fait super plaisir, trop content.
Fat Babs, tu es normand d'origine, beatmaker et DJ. Nos routes se croisent grâce à la musique, grâce à ta musique. Tu es reconnu pour ce que tu es capable de créer avec une platine, un ordinateur et quelques outils. Avec le chanteur Naman, ton ami, ton frère, vous avez construit des ponts entre la Normandie et les grandes scènes internationales. Aujourd'hui, tu vis à Dinan, tu sors un nouvel album nommé This Love Is Forever et tu continues d'écrire ton histoire. Pour mieux te connaître, peux-tu me parler de ton enfance? D'où viens-tu?
Alors, je suis né à Avranches. Exactement, le 24 février 1987, un soir de très grand froid comme ma mère a l'habitude de dire. Et j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Cuve, dans le bocage normand, pas très loin d'Avranches, à 20 km. Et j'ai grandi dans une famille populaire, ma mère était secrétaire de mairie et mon père plombier. Et j'ai grandi dans la joie et la bonne humeur, vraiment, j'ai eu une enfance très très cool. Mes parents également ont été très très cool avec moi et m'ont laissé vivre plein de choses dès l'adolescence. Et j'ai eu la chance aussi de grandir à cette époque où on entendait peut-être moins de choses à la télé, tout ça, où il y avait moins de craintes. Et du coup, c'était vraiment un petit village de 350 habitants.
Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque.
Voilà, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc j'ai vraiment grandi en totale sécurité. Enfin,
dans cette sphère, en fait.
Voilà, dans une sphère. C'était un peu l'époque où, voilà, où dans les petits villages, on laissait sortir les... Voilà, mes parents en plus étaient assez cool avec moi, donc j'ai pu sortir très très tôt. Mon père, j'avais l'habitude d'aller avec lui parce qu'il jouait à la pétanque sur le terrain de pétanque du village, et on connaissait tout le monde, tous les gens nous connaissaient.
T'es un peu nostalgique de cette période ou pas?
Je grandis avec mon temps, mais en tout cas je trouve que c'était
c'est une belle enfance.
Ouais, franchement, il y a des fois où on était tout le temps dehors, voilà, il y a des fois où je me dis quand même tous ces écrans et tous ces réseaux, mais bon, après faut grandir avec son temps, Là n'est pas forcément la question, mais en tout cas, je m'estime vraiment chanceux d'avoir pu sortir, vivre en totale sécurité et d'avoir grandi comme ça. Donc voilà.
Et à quel moment arrive la musique dans ta vie?
Alors, c'est un peu étonnant. En fait, mon père avait l'habitude de faire le DJ aussi, par exemple, parce que comme voilà, dans ce même sens, le Nouvel An était fêté dans la salle des fêtes avec tous les voisins. Donc j'ai vraiment grandi dans
c'est la tradition de plein de communes dans la Manche notamment et partout en France d'ailleurs.
Exactement, en fait, où il y avait vraiment c'était l'époque où il y avait un bal de par mois, l'été il y avait trois concours de pétanque, trois concours de, enfin voilà. Et à l'heure actuelle, par exemple, pour comparer, il y a plus rien du tout dans ce petit village. À cette époque-là, il y avait peut-être, je sais pas moi, 30-40 événements à l'année. On allait au parc Astérix, enfin voilà, il se passait plein de choses. On vivait en collectivité, vraiment tout le village ensemble. Naturellement, avec les copains, on commence à faire des soirées. Et moi, je commence aussi à aller en festival assez jeune. On a la chance d'avoir le festival Papillon de Nuit qui se crée à 5 km de chez nous. Donc, ça nous ouvre à ce délire de festival, à ce concept. Et la musique, en fait, ça vient qu'on fait des anniversaires et il faut qu'il y en ait un qui fasse le son. Et naturellement, j'adore ça et je prends le contrôle de la sono et ainsi de suite. Et après, j'achète des platines, je m'intéresse de plus en plus à la musique. Mon père avait des disques, j'utilise sa platine que je dégomme d'ailleurs. Voilà.
Elle s'en rappelle.
Voilà. Et ainsi de suite, ça monte. Je vais énormément en festival. Je suis attiré par ce concept de liberté ultime, de 3 jours de.
De faire vivre quelque chose aussi aux gens qui sont avec toi.
Voilà,
à ce moment-là,
de faire. Ouais, exactement. En fait, dès tout jeune, je préfère carrément m'occuper de la musique et faire kiffer mes potes. Et progressivement, ça monte. Et jusqu'à mes 18 ans, mes potes se cotisent tous pour m'acheter une platine. Et là, j'arrive à monter mon premier set et ainsi de suite. Je commence dans les bars et voilà, ça devient
un métier.
Passion.
Un métier après qui arrive, le métier de beatmaker. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, c'est pas forcément facile comme ça en quelques mots d'expliquer, mais en quoi ça consiste être beatmaker aujourd'hui ?
Alors un beatmaker c'est celui qui va produire, qui va concevoir une musique. Donc c'est-à-dire que moi je trouve que le mot beatmaker il est très associé à l'artisanat, parce qu'en fait par exemple un producteur de musique qui a fait du solfège et qui va tout ça, il va répondre à certains codes et c'est très bien. Un beatmaker, moi en tout cas, moi je me considère vraiment artisan de la musique parce que j'ai jamais étudié la musique. Donc du coup,
donc, pas de solfège du
non,
tout
pas okay. de solfège, rien du tout, aucune école de musique. Et donc en fait, je me demande comment créer la musique. C'est aussi l'arrivée de YouTube quand moi je me pose ces questions-là. Donc on a accès à quelques vidéos, on peut voir, on a accès à des logiciels. Et voilà, un beatmaker, c'est ça. Je bouine, je trafique, j'utilise parfois du sampling, tout ça et tout. Et je me rends compte que je peux réussir à créer mes propres musiques.
Et qu'est-ce qui t'apporte ce métier aujourd'hui, pour toi en tant qu'homme aujourd'hui?
Je dirais, après mes enfants, ma plus grande richesse, vraiment, parce que je vois, j'ai beaucoup d'amis, tout ça, je vois que la vie, quand on fait un métier qui n'est pas forcément celui qu'on désire, c'est pas si facile que ça.
Et c'est pas le cas pour toi.
Et c'est pas le cas pour moi. Ouais. Et ça, c'est une chance inouïe. Vivre de sa passion, franchement, ça n'a pas de prix. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a demandé de faire de la musique. Je la fais avant qu'on me demande. C'est comme quelqu'un qui est passionné... je sais pas moi, d'équitation ou quoi que ce soit, le matin tu vas pas lui dire faut que t'ailles travailler, il est déjà sur le cheval avant même que t'aies pu lui poser la question. Moi c'est la même chose, tu vois, c'est-à-dire que c'est ma passion, c'est quelque chose que de base je faisais gratuitement et au fur et à mesure un jour je me suis rendu compte que je pouvais gagner ma vie avec ça. Et il y a rien de plus beau, c'est ça, ça aide énormément à l'épanouissement personnel.
Et aujourd'hui, c'est le cas parce que les Normands ont encore pu t'applaudir il y a quelques jours de cela lors du festival Papillon de Nuit en clôture. Tu as une attache particulière avec ce festival normand, tu en parlais tout à l'heure. Tu as dit sur scène, c'est le meilleur festival de France. J'imagine que cela a une saveur particulière de monter sur cette scène ici à Saint-Laurent-de-Cuve.
Complètement. Alors ça, c'est un peu chauvin, mais il y a quelque chose que je dois dire, c'est que quand même avec Naman, on en a fait beaucoup des festivals. On a eu la chance d'en faire énormément. Et c'est sûr et certain que les Papillons de Nuit est un magnifique festival. Et si je pense que c'est un magnifique festival, c'est parce que il s'est créé de rien. C'est parti de rien, en fait.
Oui, un donc groupe en fait, d'amis et, voilà, et c'était parti. Hein,
voilà. C'est, ouais. Donc l'histoire monte comme ça. C'est pas quelque chose qui s'est créé avec des subventions. Ils se sont dit tiens, il nous faut un festival ici. On va mettre des subventions et on va faire venir Gims, compagnie, tout ça.
Ouais.
Il s'est créé, donc les gens se sont créés avec, les bénévoles se sont créés avec, les auditeurs se sont attachés à ce festival-là. Et ça, en tant qu'artiste, comme en tant que festivalier, je pense, enfin, c'est même sûr parce que j'ai été festivalier dans ce festival, eh ben c'est on le sent partout, on le sent quand on va acheter sa galette saucisse, quand on va prendre sa bière, quand on est artiste, quand on est reçu à l'accueil. Tout le monde est amoureux.
Il y a une effervescence, il y a un attachement... voilà. Particulier à ce festival, on le ressent d'ailleurs quand on est festivalier, je suis d'accord avec toi. Et ça va même plus loin pour toi avec la création de l'hymne. J'imagine que ça a été peut-être une surprise aussi quand Lionel te pose cette question de dire Fat Babs, est-ce que tu veux créer l'hymne des Papillons de Nuit?
Ouais, c'était une déjà y jouer, c'était une consécration incroyable. Et là, de faire l'hymne, ça m'a vraiment touché droit au cœur. Et voilà, la première chose à quoi j'ai pensé quand on m'a proposé ça, je me suis dit ok, avec grand plaisir, mais si je le fais, je veux faire quelque chose participatif avec les bénévoles. C'est-à-dire que je vais trouver un moyen de faire, d'utiliser les bénévoles.
Et là, la chorale,
voilà.
Notamment.
Et c'est à ce moment-là que l'équipe des Papillons de Nuit m'ont dit, mais en fait, nous, on a une chorale de bénévoles. J'ai dit, il me faut ça. Parce que tu sais, quand on est... quand un festival, il appartient à tout le monde, en fait. Les papillons de nuit, c'est ça qui se passe. C'est quand tu parles, les gens, ils vont dire, comme moi, je dis, c'est chez moi. Et eux, ils vont dire, non, c'est chez moi, c'est chez moi. Donc voilà, je voulais vraiment inclure le maximum de personnes pour faire qu'on ressente tous que l'hymne, on l'a fait ensemble. Je voulais surtout pas arriver à me dire, voilà, l'hymne, il est là, il est fini, c'est moi qui l'ai fait tout seul. C'était vraiment pas ça. J'avais vraiment envie de quelque chose de participatif.
Et le jouer il y a quelques jours avec Captain Spark qui te rejoint sur scène. Et puis cette surprise de voir Patrice Hamelin, toute l'équipe du festival monter sur scène. Gims est en train de jouer à ce moment-là.
Ouais.
Et l'équipe du festival est là. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens, toi, ici?
J'ai ressenti des tas de choses. C'est vraiment incroyable. Déjà, j'ai eu une énorme pensée pour mon père parce que mon père a participé à la création du festival. C'était plusieurs associations qui se sont réunies pour concevoir ce festival à la base. Donc c'est magnifique et encore une fois c'est vraiment voilà que le festival attache autant d'importance même si Gims joue à l'enfant du pays qui est là, ça montre l'amour qu'ils ont du festival. C'est-à-dire que eux ils sont très respectueux de Gims et tout ça, mais ils savent bien que sans les 2000 bénévoles, tous ces gens, il y a pas ce festival là. T'as beau faire venir Gims, s'il y a pas cet amour, il y aura pas les 100 000 personnes qui vont venir. Et ça représente notre région, ça représente la Normandie, ça représente l'amour qu'il y a en Normandie. Et franchement, j'ai pas les mots, c'est tout le concept de la vie dans lequel je crois.
Je n'aurais jamais cru que Rencontre Normande, destin incroyable, un podcast by Tendance Ouest. Sincérité, partage, confidence. Je n'aurais jamais cru que. Signé Rodolphe Delacroix, un podcast by Tendance Ouest.
Vous écoutez le nouveau podcast Je n'aurais jamais cru que, podcast by Tendance Ouest, et notre premier invité est le DJ beatmaker normand Fat Babs. Fat Babs, la musique permet de voyager et tu as voyagé aux quatre coins du monde, aux côtés de Naman notamment. Ta musique dépasse les frontières de la Normandie, de la France. Si on parle de ces voyages, est-ce que cela t'inspire de voyager?
Ah bah ouais, complètement. Une chose est sûre, c'est que on a commencé en Normandie, tout ça. Puis avec Naman, on a commencé à faire des sociétés un peu partout en France, puis des concerts partout dans le monde. Et je me suis rendu compte que ce qu'on partageait, nous-mêmes entre nous, quand on était dans la petite salle des fêtes, quand on avait 18 ans, eh ben ça existe partout dans le monde. Il y a plein d'endroits partout en France où on partage la même chose. Et donc du coup, tout ça, ça donne une motivation, une inspiration exceptionnelle et ça donne envie d'aller visiter encore d'autres endroits. Et voilà, de te dire que surtout le reggae est une musique qui n'a vraiment pas de frontières, et la musique, ma musique et la musique de Naman était une musique qui n'avait pas de frontières. Le message dépasse presque parfois la musique, c'est-à-dire que nous on fait de la musique pour s'amuser, pour se sentir bien, pour dégager quelque chose de positif, et ça, il y a des tas de gens dans le monde, en France, qui attendent de le recevoir. Et quand on arrive dans l'endroit et qu'on le donne et que les gens le reçoivent et qu'on arrive à faire que le niveau est le même entre la scène et le public, bah là, l'adéquation, elle est parfaite et le bonheur est intense.
Est-ce qu'il y a un pays où tu as ressenti une grande connexion musicale?
Clairement, franchement, l'endroit qui nous a le plus impressionné, et encore, là, j'y suis retourné il n'y a pas longtemps, c'est la Jamaïque. En Jamaïque, il y a un lien indescriptible avec la musique qui est exceptionnel. Vraiment. J'ai encore souvenir, là, quand on était au mois d'octobre, j'ai vu passer à 9h du matin un bus scolaire rempli de gamins. La musique était, mais je sais même pas comment ils pouvaient. Et voilà, ça montre tout. En fait, la musique est à chaque coin de rue. Il y a quelque chose vraiment d'indescriptible et c'est magique. Et après, il y a énormément d'endroits comme ça. J'ai souvenir aussi en Afrique d'avoir des vibes très puissantes avec la musique. Enfin voilà, de toute façon, il y a vraiment.
Alors tu as tourné dans de nombreux festivals. Est-ce que tu as une première image qui te revient quand tu penses au festival que tu as fait en dehors de la France?
La première image qui me revient là, c'est quand on était parti à Tahiti. Parce que en fait, voilà, on a eu la chance de voyager un peu partout dans le monde, mais quand on est à Cuve, aller jouer de la musique en Polynésie française, c'est vraiment l'opposé. C'est il y a 24 heures de décalage. Et voilà, c'est vrai que ce jour-là où on a pu partir là-bas grâce à Naman, et on y a été deux fois d'ailleurs, Et en plus, la première fois qu'on y a été, en fait, on a tellement kiffé que on est resté une semaine.
On a profité un peu.
Voilà, exactement. Moi, j'ai fait venir ma femme. Ah, j'ai pu demander ma femme en mariage là-bas sur une plage. Donc, c'est dans ces moments-là où voilà, on s'estime vraiment, vraiment chanceux. Et là, c'était. Et puis là-bas aussi, on a ressenti des choses très, très puissantes. Ils ont aussi également un rapport aux traditions, à la musique, à la culture, à la terre, très, très puissante, comme on peut retrouver dans nos régions.
Et est-ce que c'est un conseil que tu donnerais aux jeunes artistes, peut-être qu'il y a des beatmakers en devenir en ce moment, qui achètent leur première platine, est-ce que c'est un des conseils que tu leur donnerais de voyager pour aller voir un petit peu plus loin que chez eux?
Ouais, alors complètement, et moi pour le coup en plus, avant même tous ces voyages de musique, j'ai eu la chance, comme je te disais, que j'ai eu des parents qui ont été très
cool.
Très très cool, ouais voilà. Et quand à 18 ans, j'ai fait un BTS commerce international. Et ce BTS commerce international, je l'ai fait à Caen, à Fresnel, et il y a un stage à faire de 2 mois. Et ce stage-là, j'ai eu envie de partir au Pérou.
D'accord.
Sauf que j'avais genre 4 de moyenne en espagnol. Et la prof voulait pas que j'aille au Pérou. Et mes parents m'ont soutenu. Et voilà. Et du coup, j'ai fini par y aller. Et ce voyage a changé ma vie. Vraiment. En fait, je me suis rendu compte en allant là-bas que j'étais pas si nul que ça en espagnol. C'est juste que la manière dont on m'apprenait, c'était pas la bonne. Et là-bas, j'ai gagné confiance en moi. Ça m'a ouvert les yeux au monde, ça m'a vraiment ouvert les yeux par rapport à la capacité que je pouvais avoir à me débrouiller tout seul.
L'autonomie,
sûr. Voilà. Et quand je suis revenu, ce voyage, il m'a transformé. Donc,
c'était un nouveau Fat Babs.
Voilà, franchement. Tu vois, c'est quelque chose, j'ai des enfants aussi et je sais que là, maintenant, je m'en rends compte, maintenant en tant que père, et je sais que si un jour à 18 ans et qu'il me dit je veux aller là et que je me
dis. Il faudra dire oui.
Que je regarde sur Internet et que c'est écrit, c'est pas
il
là.
Faut pas y aller. Faut pas y aller.
Eh ben, j'essaierai de repenser à ce moment-là et de me dire laisse-le partir, parce que moi, ça a changé ma vie que mes parents m'ont laissé.
Et puis dans la vie, dans nos sociétés, la musique est universelle, on l'a dit. Elle rapproche, elle peut mettre des individus opposés totalement d'accord grâce à ce qu'elle produit chez chacun d'entre nous. Et grâce à la musique, on fait de belles rencontres. Il y a eu une rencontre, cette rencontre, pour toi, avec un artiste que tu as accompagné sur des milliers de kilomètres. On va en parler. Je parle bien sûr de Naaman.
Je n'aurais jamais cru que... Par Rodolphe Delacroix. Rencontre normande, destin incroyable, un podcast by Tendance Ouest.
Nous allons parler de cet être cher à tes yeux, à nos yeux. Cet homme, cet artiste qui a malheureusement disparu le 7 février dernier, il y a maintenant 4 mois, des suites d'une maladie. Je parle bien sûr de Martin. Je l'appelle Martin parce qu'on avait presque le même âge. Dans la tête et dans la vie de nombreux de ses fans, de Normands, de Français et d'habitants de cette terre, il occupe une place importante et tous les artistes ne permettent pas de ressentir cela. Il est presque un membre de chaque famille où sa musique a résonné. Martin, de son nom Mussard, est connu sous le nom de Naaman, chanteur normand, diepois, habité par le reggae, une vibe et une voix extraordinaires. Comment s'est passée cette rencontre entre toi et Naaman, Fat Babs?
Alors, on s'est rencontrés via l'intermédiaire d'un ami à Caen. C'est un ami à Caen qui nous connaissait tous les deux, mais nous, on ne se connaissait pas. Et qui a dit, vous devriez vous connecter parce que je pense que l'énergie pourrait faire quelque chose. Voilà. Et donc, du coup, on est rentrés en contact. Et moi, j'habitais à Rennes. Et au début, il travaillait avec Incut, qui est un beatmaker de Rennes. Ouais. Et il était chez lui, en fait. Et moi, je l'appelle et je lui dis est-ce qu'on peut se voir? Il me dit vas-y, viens et tout ça. Et voilà, c'est la petite histoire que j'avais racontée à Dieppe parce qu'elle est vraiment marrante. Et en fait, ce soir-là, j'y vais, je prends ma voiture, j'y vais là-bas. Et quand j'arrive en bas, il me répond pas. Donc j'attends une demi-heure, j'attends 3 quarts d'heure, et il me répond toujours pas. Donc du coup, moi, je rentre chez moi. Et là, j'arrive chez moi, j'appelle le pote qui nous avait mis en commun, je dis attends, c'est qui ton pote? Il me répond même pas.
Il m'a pas répondu,
tout ça,
qu'est-ce que c'est que ça?
Et puis une heure après, je reçois un message de sa part, il me dit ouais, j'ai pas vu mon téléphone, je suis désolé.
On était en train de jouer.
Voilà, et tout. Il me dit reviens demain. Au début, moi, je dis ouais, et tout. Je dis bon, ok, vas-y, je reviens demain. Et le lendemain, je suis revenu, et voilà, là, il y a eu la rencontre. Je pense qu'on a dû mettre une demi-seconde à savoir quand on était fait l'un pour l'autre. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que on a, dans cet instant même, directement fait de la musique. Et je pense qu'on a partagé la même passion, enfin la même envie de faire des choses. Et on s'est trouvé.
Et qu'est-ce qui vous a connecté musicalement tous les deux?
Je Je pense un peu la folie, ouais, je dirais. Je pense un peu une certaine folie. Parce que...
L'insouciance aussi.
L'insouciance,
ouais, jeune,
voilà.
Quand même,
l'insouciance, l'insouciance. On croyait tous les deux aussi en ce qu'on faisait. Lui avait quand même déjà beaucoup plus d'avance. Enfin, moi, lui D'accord. était déjà bien plus confirmé que moi. Enfin, il avait déjà ses chansons, il écrivait ses choses. Mais lui, il avait en tête une volonté de faire de la musique et de pouvoir transmettre son message qu'il avait déjà. Il avait déjà ce truc-là, je l'ai vu. Et moi, quand je suis arrivé, le jour où j'arrive et je le rencontre, je travaille.
J'ai un travail à côté.
J'ai un travail à côté. Voilà. Je ne vais pas en me disant, ouais. Il va m'aider
devenir. On fera de la musique.
C'est même pas une idée pour moi de devenir musicien à ce moment-là.
Okay.
Je viens juste m'éclater. Et c'est juste que je fais des instrumentales. Et lui, il aime bien les instrumentales. Et quand il chante dessus. Il se passe un truc de fou. Donc moi je prends une énergie et on s'entend direct très très bien. Donc ouais voilà, je pense que on partage une certaine folie, pas la même folie, mais il y avait une folie commune.
Et sa voix, quelle voix, quel flow, ça venait d'où ça?
Alors je sais pas, tu sais au
parce
début
que quand les gens entendent Naman la première ouais. fois, on se dit pas que c'est ce petit gringalet au départ voilà, quand bah, il est tout jeune.
C'est même ce qui un peu a fonctionné au début parce oui. que les trois quarts des gens qui l'écoutaient pensaient qu'il était black, jamaïcain, qu'il était et donc du
c'est
coup après
du
quand
tout.
Ils le voyaient parce qu'en plus il est blond aux yeux bleus,
voilà.
ultra beau gosse, tu vois, donc c'était trop marrant. Et les gens, les gens étaient étonnés. Et puis il avait un truc dans l'œil direct, tu vois, qui touchait les gens. Et la même chose qui moi, il m'a touché.
Ouais, ouais.
En fait, c'est ça, c'est que de toute façon, du jour où je l'ai rencontré jusqu'à son départ, Martin, quand il arrivait dans une pièce, il brillait. Il brillait vraiment. C'était, il y a des gens comme ça, et ça, il a toujours eu ça. Donc je pense que ouais, ça a énormément participé et d'où il tenait ça. Je sais que son père l'a énormément éduqué à la musique. Après, il s'est éduqué au reggae avec ses amis, tout ça. Et c'était l'époque un peu où le reggae 2000 nous avait grave marqué. Et il y avait quand même ce concept de des grosses voix comme Capleton, comme ouais. La Kalonji, tout ça, des artistes où ils envoyaient. On avait passé ce concept du roots reggae et là, ça envoyait. Et donc, lui, il était éduqué à ça et il envoyait aussi à fond, quoi.
Et vous naviguez donc entre la culture reggae, hip-hop, le sound system.
Voilà.
Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans cette culture-là, aujourd'hui ?
Le mélange, parce que moi, à la base, vraiment, j'écoutais quand même plus de hip-hop à cette époque-là, même si j'ai toujours été bercé par le reggae. Et donc, en fait, la combinaison, elle était trop bien, parce que moi, j'étais fan de hip-hop, lui, il avait le message reggae, le concept reggae, tout ça, il était fan de reggae roots, mais en même temps, quand les gens venaient nous voir en concert, il y avait une vraie énergie, ils repartaient, tout le monde était en transe, il s'était passé quelque chose, quoi. Et voilà, je pense que ça rejoint un peu cette folie. On adorait tous les deux ce truc de tout donner. Tu vois, j'ai même souvenir dans les premiers concerts qu'on ait fait ensemble, que des fois on allait dans les bars. Et nous, quand on signait pour une heure et demie de show, quoi, disons, ouais, façon ouais, de parler. Ouais. Et je me rappelle que des fois...
Ça durait plus longtemps.
Ça durait... On usait même les gens. Ça, c'est déjà arrivé que, tu vois, qu'à la fin, il n'y avait plus que nous deux.
Ouais.
Parce que les gens étaient partis, ça faisait 3 heures qu'ils chantaient, 3 heures que j'envoyais des instrus, ils se disaient, bon, on va faire autre chose. Et nous, même si on restait que tous les deux, on continuait à le faire. Et voilà, c'est vraiment ce truc-là, c'est un truc qu'on partageait et qu'on a partagé jusqu'au bout. Hein.
Oui, parce qu'on a eu l'occasion de vous voir même au Normandie à Saint-Lô, c'était le cas. Et vous descendez ensemble vers
ouais.
le public et il se passe quelque chose, comme tu le dis.
Ouais.
Le fait d'être au plus proche du public à ce moment-là.
Ça a toujours été... Naman a toujours voulu, même dès le début, dès qu'il était...
Fallait partager,
exactement. Fallait partager avec moi, par exemple, quand il faisait ses concerts, il disait 10 fois « Faites du bruit pour Fatmaps, oui. faites du bruit pour Peter, pour toute l'équipe. » Il a toujours pensé à toute l'équipe. C'était la tête de proue, mais il a toujours pensé à toute l'équipe et à tous les gens. S'il y avait quelqu'un qui sentait qu'il n'était pas bien ou quoi que ce soit, il allait le regarder pour lui donner la force. Il a passé sa vie à donner de l'amour.
Et c'est la suite de cet échange. Vous avez voyagé ensemble à travers le monde au fil des concerts, des toutes petites scènes, je disais, aux plus grandes. Naman nous a offert donc 4 albums, des dizaines de featuring. C'est un véritable héritage musical et humain. Quel est ton regard sur l'histoire que toi tu as eue avec Naman aujourd'hui?
Il y a un moment à La Réunion, le dernier concert qu'on a fait à La Réunion, où on s'est dit qu'on était presque des binômes un binôme de vie. Moi, Naman, je le considère comme un binôme de vie. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est comme si on était fait l'un pour l'autre, en fait. Un peu, il y avait toujours un peu cette relation, même si on était très différents. On est très, très différents. Il y a des moments aussi où on ne se parlait pas. Il y a des moments où où il n'y a pas eu des embrouilles, mais que c'était un peu plus chaud aussi. Mais voilà, on avait. Pas comme un besoin de l'un. Enfin, c'était comme ça. C'était comme le yin et le yang, ouais. Comme deux entités qui font que quand on était réunis ensemble.
Il y a une création qui se fait.
Parce qu'en plus, à grandir, lui est devenu plus sage, façon de parler. Enfin, il s'est ouvert à fond vers la méditation, toutes ces choses-là. La spiritualité, moi, il me faisait halluciner, alors que moi, je suis, disons, façon de parler, je suis un peu plus terre à terre. Et donc, du coup, ce truc-là, c'était parfait, quoi, tu vois.
Il y a cet équilibre entre vous deux.
Cet équilibre, tu vois, avec un gars derrière qui bouge les bras dans tous les sens, et lui, avec sa casquette, et lui, tu vois, là, à faire des discours complètement incroyables, à chanter, parce qu'après, au début, il était beaucoup dans le flow, dans l'énergie, et puis après il chantait de plus en plus, et puis là, enfin voilà, c'était vraiment, il y avait,
c'était confirmé,
et puis il chantait magnifiquement bien, et donc voilà, je pense que ça, et puis toute notre vie ça a toujours été comme ça, et du coup cette combinaison a fait que voilà, comme s'opposer s'attire, voilà, parce qu'on était vraiment très différents l'un pour l'autre, et au final lui m'a énormément appris et il m'a énormément ouvert à la spiritualité et ce qui aussi aujourd'hui m'aide quotidiennement.
Alors j'imagine qu'il y a des nombreux souvenirs de ces tournées, ces moments en studio, ces moments chez lui en Inde, car il était parti s'installer à Goa. Si tu devais nous citer quelques souvenirs marquants avec lui, ce seraient lesquels? En studio, sur scène, dans le tourbus? J'imagine qu'il y a des souvenirs marquants de toutes ces années avec Naman.
Alors, il y en a plein.
Ouais, pas facile comme question.
Il y en a plein, je dirais la première fois où on a enregistré quelque chose dans un studio, où je me souviens que... On bossait avec un mec, le gars du studio était quand même bien professionnel et on enregistre le morceau Skanking Shoes, on fait la vidéo, tout ça, et à un moment je suis derrière la table et Naman lui chante, il entend pas ce que dit l'ingé son, et l'ingé son il me regarde et tout, il me dit le gars là il est surdoué, le mec là il est surdoué, il a un talent de fou. Il a un truc en lui, je sais pas si tu te rends compte, mais en fait, il fait des notes intermédiaires qui sont super dures à faire et qu'il fait même pas exprès de les faire. Il dit, ce gars-là, il a un talent de fou. Et je me rappelle que ce jour-là, moi, j'avais pas calculé non plus. Je savais qu'il était très fort, mais c'est comme s'il mettait un peu de technique sur des choses. Il me dit, il arrive à faire des choses que normalement, on travaille des années pour arriver à faire ça. Donc je dirais que c'est là où je me rappelle, je me suis dit, dis donc, lui il est super confirmé, il dit qu'on est chaud, il y a peut-être moyen vraiment de faire un truc, tout ça. Et après il y en a énormément de concerts, et je sais qu'à un moment aussi qui a été très important pour lui, il rêvait de nous faire venir en Inde et toute l'équipe. Et toute l'équipe entière, tous les musiciens, on a réussi à aller faire un concert en Inde. Et j'ai souvenir d'un moment où on prend nos scooters, chacun les scooters, et
il y a des vidéos de ça.
Voilà, et on a roulé sur Temple Road, la route de là où habite Naman. Et je me souviens que c'était lui en premier avec sa moto, et là son regard, il se disait yes. Et ça c'était magnifique.
Il avait tenu à prévenir le public de sa maladie. On a pu le voir guitare à la main après l'opération. On sait qu'il faisait des crises, qu'il épuisait. Il montait quand même sur scène et on a tous en tête cette phrase de lui. La vie est un cadeau. Où puisait-il cette énergie positive, cette résilience face à la maladie, cette force de l'esprit? Vous l'avez vécu, vous, ça?
Je pense à l'apprentissage de la vie que lui... Il était vraiment, même moi le premier, je veux dire que quand il est parti, Je m'étais même pas. Il y a plein de. Une fois qu'il est parti, je me suis dit, ouais, mais c'est le nombre de trucs sur lesquels il avait déjà tout préparé, déjà tout vu d'avance. Enfin, c'était. Il était vraiment très très loin en termes de spiritualité, de pensée, de.
Il avait une vraie philosophie.
Il avait une vraie philosophie par rapport à ça. Ouais. Voilà, exactement. Et je pense que c'est cette philosophie qui a fait que qu'il a réussi à aborder tout ça et qu'il a pu aider autant de gens et qu'autant de gens ont ressenti cette chose-là. Ils étaient proches de lui.
Et il se savait condamné. C'est une question très personnelle que je vais te poser. Mais comment toi tu as vécu la perte de Martin le 7 février en question? Comment tu as vécu ce moment-là? Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu savais que ça allait arriver?
Ouais, moi je le savais, ouais. Je le savais que ça allait arriver, mais je pensais être prêt et finalement je l'étais pas plus que ça. Mais voilà, après c'est très personnel, mais je pensais être prêt et en fait je l'étais pas. Voilà.
Est-ce qu'il y a une chanson en particulier du répertoire qui te fait du bien de ces quatre albums, de tout ce que vous avez produit ensemble aujourd'hui?
Non, tout. Je peux pas dire une seule chanson. Franchement, c'est comme un frère, donc c'est une aventure humaine entière qui nous lie tous les deux.
Est-ce que tu continues de voir les musiciens, les Deep Rockers, aujourd'hui?
Ouais, exactement, ouais. Moins pour le coup, mais ce qu'on a créé ensemble, c'est on est très 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 soudés, donc ouais, on continue de se revoir. On essaie de créer des occasions pour pouvoir continuer de se voir.
Et donc après son départ avec ses proches, tu as été à l'initiative d'une grande fête en hommage à Naaman à Dieppe, où une place a même été renommée en son nom. Tu disais ce jour-là, Naaman a créé une grande famille. Naaman, il est éternel. Les fans ont répondu présent, les amis, la famille, des artistes comme Big Flo et Oli. C'était une fête parce que Naaman voulait que ça se passe comme ça?
Exactement, c'est lui qui nous l'a demandé. Ouais. Il nous a demandé de faire ça, il nous a demandé de ne pas être triste, il nous a demandé de... Il a demandé de faire tout ce qu'on fait actuellement. De continuer à faire de la musique, de célébrer, de garder la tête haute, façon de parler. Et du coup, pour nous, en tant que proches, c'est très étonnant que déjà, qu'on te demande de faire ça. Et après, quand je l'ai compris, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait, parce que ça m'aide et je touche du bois pour qu'il m'arrive pas d'autres soucis, mais je sais que ça m'aidera s'il y en a arrivé.
Et tu as reçu des centaines et des centaines de messages.
Ouais.
Comment tu as ressenti ça, cet élan collectif, en fait, de la part des fans, de tous ces proches aujourd'hui? Parce que je les appelle proches, forcément.
Ouais. Bah, en fait, tu sais, c'est même, je pense, la phrase, celle qui est revenue le plus souvent dans tous les messages que j'ai reçus, c'est... je sais pas, les gens disaient exactement ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de ma famille. Et moi, je sais pourquoi. C'est parce que depuis le tout début, chaque instant, chaque moment sur scène, il a donné l'entièreté de sa personne. Il a jamais rien caché, il a tout donné. Et donc en fait ça crée ça. Ça crée cette chose-là. Et moi, j'ai pas pu répondre à tous ces gens-là, mais c'est ça que je veux leur dire. Je veux leur dire, c'est que c'est pas une illusion. Vous avez raison, vous le connaissez. Vous le connaissez et il vous connaît aussi, en fait. C'est ça, cette chose-là. Et ça, c'est magnifique. Quel cadeau incroyable. Quel cadeau incroyable. Et c'était aussi notre devise de quand on monte sur scène. On monte sur scène, on casse les barrières. On fait en sorte que cet écart, ces 2 mètres qui séparent la scène et le public, il n'existe pas. Parce qu'on est là pour partager. Et quand on va arriver à casser cette barrière-là, on va partager un moment qui est bien, bien au-delà de la musique, bien plus puissante que la musique.
Je n'aurais jamais cru que, par Rodolphe Delacroix, Rencontre Normande, Destin Incroyable, un podcast by Tendance Ouest.
Alors Fat Babs, en dehors du travail avec Naaman, tu produis beaucoup. Des prods exceptionnels, Daily Jam, Holidays, 48 degrés Nord, Music is for Kids, que j'ai écouté en boucle, et notamment Like a Melody, où on entend d'ailleurs Naaman, Nootsie Pechile, ou encore les Amis de Generation. Tu as vécu un moment fort avec ta nomination au Grammy Awards 2025, et depuis plusieurs mois, tu travailles sur ce nouvel album nommé This Love is Forever.
Ouais.
Qu'est-ce que This Love is Forever représente pour toi aujourd'hui, en ce mois de juin?
This Love Is Forever, bah c'est un très bon pont parce que tu vois, là ça fait 10 minutes qu'on parle d'amour.
Oui.
Tu vois, ça fait 10 minutes qu'on parle de ça. Quand, en fait, au final, c'est ça, c'est bien plus que de la musique. Eh ben, This Love Is Forever, il veut juste dire que cet amour, il est éternel. Et qu'il n'y a rien, ni personne sur Terre qui pourra casser ça ou enlever ça. Et nous, en tant qu'artistes et membres de Big Scoop Record, on fera en sorte de tout le temps propager cette chose-là. Aussi naïf que ça peut paraître, voilà, ce monde manque de love. Et on en a besoin. Donc nous, on est les artisans, on est là pour répéter les choses les plus simples au monde, mais qui en fait sont les plus belles et les plus importantes.
Alors on retrouve des collaborations avec Davoja, ouais. Enaman pour le titre Rambo, ou encore Capleton sur Hurry Up. Ouais. C'est ça la musique, on en parlait, c'est du partage, même avec d'autres artistes du coup ici, comme sur cet album.
Exactement, bah, cet album en fait c'est... Moi en tant que producteur, j'ai fait des albums instrumentaux, mais ce que j'aime faire, enfin comme je t'expliquais un peu ce qu'est un beatmaker, et aussi le rôle de producteur qui est de produire une chanson. C'est-à-dire que par exemple, il y a des beatmakers, ils vont savoir juste faire l'instrumental, et il y a quelqu'un qui va chanter, et après il y a quelqu'un qui va arriver pour faire en sorte que la chanson elle se tienne, et que ça soit écoutable et agréable et machin, et tout ça. Et moi, c'est une des parties maintenant que je préfère le plus, c'est ça. Même sur This Love Is Forever, il y a des instrus qui sont même pas forcément de moi, enfin qui ont été faites par Julian, le claviériste de Naman justement. Et donc du coup, pour créer ce partage, il faut un chanteur, voilà, il faut tout ça. Et j'adore être le lien, en fait, entre ça soit ma musique, les chanteurs, pour pouvoir créer une chanson et faire amener quelque chose qui va créer une émotion, et qui va faire pleurer, rire, danser. Voilà, mais en tout cas, trouver un concept qui est que tu vas écouter une chanson de 0 à 4 minutes, et que pendant ces 4 minutes, je vais tout faire pour qu'il se passe quelque chose dans ta tête. Voilà, ça, c'est le truc que je kiffe le plus. Et souvent, c'est lié au partage.
Et quels sont les titres de cet album dont tu es le plus fier? C'est dur, comme répondre. Tes coups de cœur à toi, peut-être. Il y a peut-être une histoire particulière derrière un morceau de cet album.
Ouais, alors déjà, il y a un morceau hommage à Martin. Forcément, celui-là, il me touche aussi. Mais ça, c'est un peu hors catégorie, façon de parler, vous en doutez bien. Mais sinon, je dirais que le morceau avec Capleton, il est vraiment très, très important à nos yeux. Parce que c'est quand même une légende de dingue. Et donc, du coup, arriver à faire un titre avec quelqu'un comme ça, ça a été quelque chose vraiment de très très fort. Et surtout, en fait, c'est quelqu'un qui en fait beaucoup des chansons. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire un bon Capleton comme une façon de parler un mauvais Capleton. Et là, je trouve qu'on a réussi quand même à faire un bon titre avec lui. Donc, ça veut dire qu'il a ressenti aussi notre énergie, qu'on a réussi à amener, même si c'est qu'envoyer quelques messages, tout ça. Et voilà, on est guidé par je sais quoi, mais en tout cas, la chanson, elle est mortelle, quoi. Donc, c'est vraiment, je suis super fier de celle-ci.
À ne pas manquer, Hurry Up avec Capleton.
Exactement.
Et si Naman était assis à côté de nous, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qu'il en penserait? Qu'est-ce qu'il dirait de cet album, selon toi?
Qu'est-ce qu'il dirait? Il serait fier de moi, il serait très très fier de moi. Après, on avait nos petits private jokes, mais au-delà de ça, il serait super content, il serait super content parce que, en plus, faut savoir qu'il m'a vraiment, c'est un peu étonnant, mais voilà, il m'a dit plusieurs phrases qui maintenant je m'en rends compte m'ont énormément aidé, notamment Capleton sur cette chanson-là. Comme je l'avais expliqué un peu sur les réseaux, c'est lui qui m'a fait changer l'instrumental de Capleton. Et c'est aussi lui qui m'a donné envie d'aller en Jamaïque. Ben voilà, il y a énormément de choses. J'ai l'impression que, en plus d'avoir tout donné, il m'a fait encore d'énormes cadeaux avant de partir.
Alors j'imagine que tu as hâte de le présenter au public, ce nouvel album. Certains ont eu la chance d'entendre certains titres en live sur les quelques derniers shows. Alors sur scène d'ailleurs, tu as une énergie débordante. Tu parlais tout à l'heure de lever les bras. On te voit chanter, danser, bouger les bras. Tu as plusieurs concerts à venir, des festivals. Dans quel état d'esprit tu es là en ce moment?
L'album me donne beaucoup de force. Parce qu'aussi, je suis un grand travailleur. Par rapport à tout ce qui s'est passé, justement, me plonger dans le travail, ça me donne vraiment... ça me donne une dynamique. Et après, en fait, quand on travaille sur un album, comme on disait tout à l'heure en off, les albums, maintenant, ça passe tellement vite. Et que... Du coup, moi, j'ai toujours tâché de faire de la musique populaire. Je me suis jamais dit, moi, je vais faire de la musique que pour moi, c'est que pour moi. Moi, je suis pas dans ce délire-là. Moi, j'aime faire de la musique qui est populaire, qui est donc du coup quand les gens derrière disent que c'est cool et qu'ils apprécient, ça me touche fois mille.
Je n'aurais jamais cru que par Rodolphe Delacroix, Rencontre Normande, Destin Incroyable, un podcast by Tendance Ouest.
Vous écoutez le premier épisode de ce nouveau podcast by Tendance Ouest intitulé « Je n'aurais jamais cru que ». Et notre invité est l'artiste normand Fat Babs qui vient de sortir son nouvel album « This Love is Forever ». Nous sommes ici chez toi Fat Babs, installé dans ce studio à Dinan, dans ton univers. Si on jetait un coup d'œil dans le rétro, qu'est-ce que tu retiens de ces dernières années ?
Une gratitude incroyable. Comme je te disais, une gratitude incroyable parce que on a eu la chance de jouer partout, de faire tous les festivals et surtout dans des conditions vraiment bonnes parce qu'on a créé notre propre label, on a fait en sorte d'être indépendant. Donc
c'est un vrai choix ça d'ailleurs.
C'est un vrai choix. On a fait ce choix-là d'être nous-mêmes on a la chance d'avoir un manager exceptionnel, management exceptionnel avec Peter et Erika qui Peter c'est vraiment on parle tout le temps de Fat Babs et Naman mais Peter s'il y a pas
il est encore derrière toi voilà, pendant le show y a pas de Papillon de nuit
c'est sûr et certain. Et voilà, donc on les a fait en plus dans des conditions vraiment cool et avec une équipe exceptionnelle. Toute l'équipe qui a partagé, à chaque fois l'équipe qui sont rentrés, ils avaient le même concept de vie que nous, tout ça. Donc voilà, on a passé toutes ces dernières années à s'éclater, à vivre de notre musique, à échanger avec des gens, passer des soirées avec des gens qui te disent que tout ce que tu fais c'est génial. Donc franchement, vraiment, on a juste trop de chance parce que. Au final, comme me disait il y a pas longtemps Luis Enrique, les vrais héros, c'est pas nous, hein, c'est ceux qui sauvent des gens, c'est les pompiers, c'est les infirmières, c'est eux les vrais héros. Nous, on est juste là pour l'entertainment et le plaisir. Mais voilà, tant mieux parce que ça, le nombre de gens, le nombre de bonheur que ça apporte, ça fait du bien. Voilà, c'est pour ça que
société aujourd'hui, bien
c'est
sûr.
Exactement, c'est énormément, c'est très important que j'attache une importance énorme à la culture et à la culture en province aussi. Voilà, dans les tout petits endroits, c'est pour ça aussi que des fois j'accepte d'aller jouer dans un festival où il y a 200 personnes, parce que si j'avais fait partie de ces 200 personnes, j'aurais adoré qu'un artiste vienne et me donne de l'inspiration pour plus tard.
Un jour, il y a longtemps, tu as dit dans une interview, mon style, je le cherche, je ne l'ai pas encore trouvé. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Et surtout, est-ce qu'il faut vraiment se ranger dans un style selon toi ?
Alors c'est une super question, tu vois, en fait sur Music is for Kids, c'est l'époque où on fait Beyond aussi, donc c'est l'époque où je suis un peu attiré par énormément de choses différentes. En fait quand on a fait cet album là This Love is Forever, avant de le faire avec le manager, il m'a posé une très bonne question, il m'a dit mais est-ce que t'aurais pas envie de faire un album pour les gens qui t'écoutent et plutôt que d'aller chercher d'autres gens. Et donc c'est pour ça que This Love is Forever est un album reggae hip-hop et 100% reggae hip-hop. Parce qu'on a eu envie, on s'est dit ça va être plus simple aussi après pour découler. Et puis c'est le. Je veux dire, quand on me catégorise, je suis reggae hip-hop. Le seul truc, c'est qu'en fait, j'aime tellement de choses que je fais énormément de styles. Sur Music is for Kids, on peut l'entendre. Je fais de la funk, j'ai même des morceaux électro, tout ça. Et des morceaux cool des fois, des trucs électro et tout. Mais voilà, quel est le mieux entre arriver avec un truc qui déchire. Mais dans une musique qui est pas
bien spécifique,
bien spécifique et dans laquelle tu n'appartiens pas, donc il va falloir que tu te fasses découvrir. C'est M qui disait ça. M, il disait que quand un artiste il commence, il crée un triangle avec ses 3-4 premières chansons. Et une fois que ce triangle il est fait, tu pourras toujours déborder du triangle, mais c'est dans ce triangle-là que tu auras le plus grande chance d'avoir l'énergie des gens qui t'écoutent. Et This Love is Forever, il est dans le milieu du triangle.
Et comment tu vois la suite après cet album ?
Là, cet album, il est fini. Et la première chose sur laquelle je vais me concentrer, c'est toute la musique que nous a laissé Naman. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Et après, j'ai d'autres projets. J'ai un projet super cool avec Soumti aussi qui est en cours. Un truc qui verra le jour quand ça viendra et dont je suis vraiment très fier aussi. Et puis, l'avenir, c'est de faire de la musique, d'essayer de continuer ce qu'on a, recréer un peu ce qu'on est en train de faire pour pouvoir rejouer et continuer à propager le message de Biscoop Record et notre amour, en fait, tout simplement. Donc, voilà, pourvu que ça dure, pour l'instant, on a plein de retombées positives, donc on recrée quelque chose progressivement et puis on va continuer la mission qu'est la nôtre de donner de l'amour aux gens.
Et quel conseil tu donnerais au petit Fat Babs d'il y a 20 ans ?
D'aller en Jamaïque quand il a hésité d'aller en Jamaïque. Mais non, je donnerais de croire en ses rêves. Franchement, c'est aussi bête que ça, mais aussi simple que ça. Il faut suivre son instinct. Si tu crois en quelque chose, mais que T'es le seul à y croire.
C'est la marge, voilà.
Voilà. Ouais,
tout à fait.
Mais c'est peut-être parce que c'est exceptionnel. C'est peut-être pour ça que t'es le seul à y croire. Donc voilà, c'est. Je dirais surtout de pas brimer sa créativité. Et en tout cas, moi, je sais que pour moi, la plupart des trucs cool que j'ai fait sont des choses que j'ai fait par erreur. Donc ne pas avoir peur de l'erreur, ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur de sortir les choses, voilà, ne pas avoir peur de tout ça, ne pas avoir peur du regard des autres et tout ça, parce que tu peux avoir deux personnes qui n'aiment pas, mais mille qui aiment derrière. Voilà.
Les prochains lives à noter. Boat Party à Granville le 21 juin, le lendemain voilà. de la sortie de l'album.
Exactement, sur les îles Chausey, voilà. Incroyable, ça va être génial.
À Barenton dans la Manche, le 15 août au Kermesse Festival, à Saint-Aubin-sur-Mer le 16 août au Xmos Festival, le 11 octobre ça sera au Badaboum à Paris.
Exactement,
sans
c'est la constate parisienne.
Trois dates cet été, les 2, 8 et 9 août,
ouais.
Sunska Festival, le No Logo et ouais. le No Logo BZH, Braise,
ouais,
c'est ça.
Exactement.
Pour un tribute to Naman, qu'est-ce que tu nous prépares pour ces dates-là?
Ça va être une soirée Sound System, on va avoir, on a la chance d'avoir deux musiciens Naman avec nous et beaucoup de guests. Et en fait, en gros, on prépare les choses en plus grand pour célébrer sa vie en plus grand l'année prochaine. Mais en fait, ce qu'on a fait à Dieppe, on a eu énormément de gens qui nous ont dit « Waouh, je voulais trop être là, mais je pouvais pas parce que je travaille, parce que j'ai la famille, j'ai les enfants, parce que c'est compliqué. » Et on a reçu tellement de messages avec Peter, on s'est dit « Il faut qu'on fasse même un petit truc, mais il faut qu'on aille voir les gens. » Donc voilà, on va dans l'Est, dans l'Ouest et dans le Sud-Ouest. Malheureusement, on n'a pas pu en faire une dans le sud-est. Mais voilà, on se déplace aux gens pour proposer un peu le même délire qu'on a fait à Dieppe. Juste écouter sa musique et célébrer son message tous ensemble.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Fat Paps?
Franchement, que la vie continue ainsi. J'allais dire que la vie continue de nous faire des cadeaux, mais on en est parfois injuste. Mais voilà, je dirais que ouais voilà ça que je puisse encore vivre de ma passion et voilà que la musique continue et que le message continue de se propager.
Merci voilà. Fat Babs de nous avoir partagé ton parcours, tes souvenirs, tes cicatrices. Ce podcast s'intitule Je n'aurais jamais cru que, et dans chaque épisode, je demanderai à mon invité de terminer cette phrase parce qu'elle n'est pas finie. Et pour toi ce serait quoi? Je n'aurais jamais cru que.
Eh ben écoute, je vais te dire un truc. Quand j'avais 12-13 ans et que j'écoutais mon père, sur le poste de mon père, écouter Tendance Ouest, j'aurais jamais cru que Tendance Ouest serait venu avec deux appareils et du matériel dans un studio que j'ai fait moi-même avec mon beau-père chez moi. Voilà.
Merci Fat Babs. Merci beaucoup de m'avoir reçu chez toi. C'est la fin de votre podcast. Je n'aurais jamais cru que. C'était Rodolphe Delacroix. Je reviens très vite avec un nouvel invité, une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. Et d'ici là, n'oubliez pas, la vie est un cadeau. I feel your